Bonsoir et bienvenue plutôt dans ce nouveau numéro de La Relève, votre quinzomadaire, si j'en crois l'Office québécois de la langue française, radiophonique ce quinzomadaire. Il est consacré aux nouveaux talents. Ce soir, on va parler de comptes et de réseaux sociaux, mes invités étant autrices. Mais avant de commencer, jusqu'où seriez-vous prêt à aller par amour? Même si ce n'est pas vraiment le cœur du roman dont je vais vous parler maintenant, Angier va devoir prendre une décision radicale. Angier Rézal s'aime depuis l'enfance d'un amour passionné et peut-être déséquilibré. Ah, l'amour, l'amour. Tout n'est pourtant pas merveilleux car Angier et Zal sont devenus deux amants et vivent en Iran. Alors quand Zal se fait tabasser à la sortie d'un lieu de drague, Angier décide d'entamer sa transition tout en souffrant des infidélités de son amant-amour. Car si l'homosexualité est un crime, eh bien figurez-vous que le changement de sexe est tout à fait possible en Iran. Par ce très rapide résumé, je ne vous parle pas du tout d'un roman à thème, mais de littérature, de vraie littérature, celle où l'enjeu est tout autant dans la manière d'écrire que dans ce qui est raconté. Si les questions d'amour, c'est d'un amour avec des fluides, du sexe, du sang, lecteur sensible s'abstenir, le tout écrit dans un style mêlant envolée poétique, évocation de la culture perse classique et la réalité la plus matérielle. Les larmes rouges sur la façade, c'est le titre du livre, est aussi une sorte de roman noir avec une course contre le temps, des personnages secondaires jamais vus, des meurtres et un suspense final qu'on taira. Je crois que je suis pas très bien réveillé. Mais si je le redis, ce n'est pas un roman à thème, c'est aussi l'occasion de lire l'Iran côté underground avec ses lieux de drag queer, sa fascination répulsion pour les États-Unis. Les larmes rouges sur la façade est un roman de Navid Sinaki, paru aux éditions Le Bruit du Monde, et la traduction est signée de Sarah Gursel. Bonsoir Suzanne Privat.
Bonsoir.
Vous avez publié Toxique, votre premier roman aux éditions Les Avrils, à vos côtés. Lucille Nova, vous êtes autrice de votre côté d'un essai de grand nom qui lui est publié paru aux éditions Zone.
Bonsoir.
Bonsoir à vous deux. Vous connaissez un peu la culture iranienne? Pas du tout.
Pas plus.
Eh bien, je vous conseille ce roman. Alors, Suzanne Privat, je commence avec vous. Vous avez publié une enquête très remarquée il y a quelques années qui s'appelait La Famille. Et vous revenez avec un roman nourri de réalité, cette fois-ci toxique. Alors, pour commencer, j'avais envie de vous demander de nous parler de Constance, la narratrice de cette histoire. Qui est-elle?
Alors, Constance, elle est photographe, mais elle exerce une photographie un peu particulière, dans la mesure où elle fait une photo de commande. Elle travaille avec une université et chaque année, elle s'impose de revenir exactement au même endroit, prendre exactement les mêmes photos. L'objectif étant de donner à voir l'évolution du territoire au fil des années d'une manière très très précise.
C'est un métier qui existe vraiment ?
C'est un métier qui existe, qui est exercé par une poignée de photographes triés sur le volet qui travaillent pour l'État. Pour l'ex-Datar, maintenant.
Leur but, c'est quoi? C'est de documenter l'évolution des paysages?
C'est vraiment de documenter l'évolution du paysage par le sensible. Et pour une petite histoire, quelqu'un comme Depardon a été photographe de la Datar pendant des années.
Alors Depardon, le grand photographe.
Depardon, le grand photographe. Et en l'occurrence, mon personnage de Constance est inspiré d'une photographe qui existe réellement, qui travaille sur les traces laissées par le capitalisme dans le territoire, qui s'appelle Anne-Marie Filaire. Et alors, elle lui ressemble pas plus que ça, mais j'ai tombé sur une interview d'elle dans un livre, je crois. Et j'avais été fascinée par son travail et je me suis dit, ah waouh, quel beau personnage. Et à la première occasion, je me suis jetée dessus.
Alors elle travaille dans le sud de la France, c'est son importance.
Mon personnage travaille dans le sud de la France.
Oui, votre personnage, oui, Constance.
Elle travaille plus exactement à Miramas, qui est une cité quelque part entre Marseille et Arles. Qui est une ville née d'à peu près rien dans les années 70 pour accueillir les travailleurs des mines de Gardanne.
Et ça, donc, vous avez... Alors, ce qui vous a intéressé, pardon, on va juste revenir au personnage de Constance. Ce qui vous intéresse chez elle, c'est qu'elle est en retrait, qu'elle observe d'abord.
Ce qui m'intéressait, c'est son regard. En fait, elle ne vit que par le regard. Elle passe son temps à regarder et à scruter l'infraordinaire de ce qu'elle traverse. Et j'aimais bien ce caractère obsessionnel que je partage un peu peut-être et j'avais envie d'un personnage qui soit muet et qui ne soit que regard et ça tombait bien parce que la ville de Miramas qui est le théâtre de mon roman en espagnol ça veut dire regarde plus.
Écrire, c'est d'abord regarder.
Écrire, c'est d'abord regarder, en ce qui me concerne, oui, bien sûr.
Pour vous aussi, Lucille
Je ne sais pas si je l'aurais dit exactement comme ça, mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a, dans votre personnage regarder se transforme assez vite en enquête d'une certaine manière. Enfin, je crois qu'il y a une forme de curiosité.
Il y a une forme de curiosité, voilà. Mais qui m'anime depuis, depuis l'âge de 0,5 ans à peu près. et très vite, le regard, il n'est pas innocent en fait. Oui, il tire quelque chose d'autre. Oui,
ça me parle.
Parce qu'un jour, elle découvre, on va en parler après, effectivement. Un jour, elle découvre un tag, Lovana, on ne t'a pas oublié. Et ça, c'est la partie vraie de l'histoire. Ce tag, il existe vraiment ?
Ce tag n'existe pas, non.
Tout est inventé, alors ?
Non.
C'est ça qui est compliqué dans votre roman ?
En fait, tout n'est pas inventé. Ce tag n'existe pas, mais l'histoire qu'il y a derrière existe. Et quelque chose comme ce tag a existé, mais il est en ligne. Il y a quelque chose, il y a plusieurs fois sur Internet, c'est X, on ne t'a pas oublié. Alors,
le prénom, vous l'avez changé.
Éventuellement, évidemment, un prénom imaginaire. J'aimais bien la consonance un peu entre Loana et
Love.
Et Love Amour, ça me plaisait assez bien. Ça situait socialement le personnage et ça m'allait à ce moment-là de la rédaction. Il y a une véritable jeune fille derrière Lovana.
Alors, qu'est-ce qui arrive à Lovana ? Moi, j'avais écrit, j'ai pas envie de dire que c'est un fait divers, c'est plutôt une tragédie moderne.
C'est plutôt une
tragédie
moderne.
Le terme fait divers est terrible, on ne peut pas dire ça.
C'est parce que c'est même pas un fait, en fait. C'est une tragédie, dans le sens que... il y a tout un tas d'acteurs de cette tragédie et qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne peut l'imaginer. C'est une jeune fille qui va poster un soir de 2008, fin 2008, elle poste un rap amateur sur YouTube qu'elle relaie sur son Skyblog. On est vraiment dans les tout débuts des réseaux sociaux, il n'y a pas grand-chose qui existe à l'époque.
2008, on rappelle, c'est le début de l'iPhone.
C'est le tout début de l'iPhone. Et là, en l'occurrence, je pense que les gens qui s'en sont pris à elle n'étaient même pas sur iPhone. Tout se passait
sur les ordinateurs.
Il faut imaginer des chambres d'enfants avec un petit ordinateur bleu qui clignote et une petite lumière très intime. Et c'est là-dedans, c'est dans ce théâtre-là individuel que ça s'est passé. Et donc, elle poste ce petit rap un peu naze, faut bien l'avouer.
Elle fait rimer Miramas et Chien de la Casse.
Dans le vrai rap, c'est pas mieux, en vrai. Malencontreusement, ça va tomber dans l'oreille de personnes qui n'avaient qu'envie de se moquer et qui vont diffuser leur moquerie légère au départ par le biais de la radio, et ça va être récupéré par les premiers réseaux sociaux, et là ça va devenir un raz-de-marée, et elle va être avalée par un raz-de-marée de haine sur Internet, et ce sera la toute première martyre en ligne de nos vies numériques.
En vous écoutant, je réalise à quel point le temps passe vite. J'avais même pas réalisé en vous lisant, mais en vous écoutant, je réalise à quel point le temps passe vite. Je me dis qu'il y a certains des gens qui nous écoutent, qui ont moins de 20 ans, qui ne doivent même pas savoir ce que c'est un Skyblog.
Ouais, plein.
Surtout qu'ils ont fermé Skyblog l'été dernier, je crois.
Et ben pour moi, ça a été.
Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est aux gens
Alors,
qui nous écoutent ?
Non, Skyblog, c'était les premiers. C'est une plateforme de blog qui a été créée très peu de temps avant de disparaître, finalement, en 2002. En France, c'est un phénomène typiquement français.
Qui était un gros succès. Tous les ados étaient sur Skyblog.
Tous les ados étaient sur Skyblog et on y confiait nos passions artistiques, nos coups de foudre amoureux, nos fâcheries amicales. C'était un merveilleux exutoire. C'était très beau. En plus, graphiquement, il y a encore des musées de Skyblog sur Insta. Il faut aller les voir. Graphiquement, ça laissait la place à tout un tas de créativité. La vraie jeune fille y était réellement. J'ai retrouvé son Skyblog avant qu'il ferme. Et c'est une sorte de tombeau numérique d'une jeunesse enfouie. Mais c'est magnifique. C'était un très bel endroit.
Vous aviez-vous des Skyblogs ? Moi, je suis trop vieux, mais vous
peut-être ? Moi, j'en ai eu un. Moi, j'étais trop vieille pour en avoir, mais j'ai toujours été très geek. Donc, j'en avais.
Et vous, Lucille ?
Oui.
Non, mais j'ai pas obligé, hein, c'est pas.
Évidemment, non, maintenant qu'ils ont fermé, c'est bon, je peux en parler librement.
Je ne suis pas comme ça.
Bien sûr que j'ai un Skyblog.
En général, on n'avait pas un, on en avait 7 ou 8 parce qu'on oubliait les codes du Skyblog et donc on les accumulait.
Oui, il y avait des Skyblogs de fans, par exemple,
ça,
sur certains groupes.
C'était le gros du lot, bien sûr.
Ouais, y avait...
Et puis, il y avait les apprentis poètes, les apprentis photographes, les apprentis tout ce qu'on veut. Et elle, c'était une apprentie rappeuse. Ouais.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette histoire ? C'est justement de raconter ce premier martyr.
C'est de raconter.
Elle est poussée à la mort, on peut. En tout cas, elle finit par se suicider.
Pas du tout. Mais c'est pas grave. Je vous en veux pas.
Ah bon ?
Non, elle se suicide pas du tout.
Ah d'abord, j'ai pas compris.
Non, elle se suicide pas.
Ou alors, allez-y,
pardon. Ils l'ont poussée à se suicider, sauf qu'elle a résisté.
Oui.
Elle ne s'est pas suicidée. Elle n'a pas été jusque-là. Mais c'était leur attention, mais c'était leur mot. En fait, ce qui s'est...
Oui, c'est ça. C'est le mot que vous mettez d'ailleurs au début du livre où quelqu'un lui dit en gros « supprime-toi ».«
Supprime-toi », oui, ah, oui, bien sûr.
J'ai mon cerveau qui a disjoncté.
Et en fait, il y a eu une accumulation de chacun... En fait, sur Internet, ça marche de façon très simple. On pose un mot et quand il n'est pas sympa, il plaît. Et donc, on pose ce même mot plus un autre. Et en fait, c'est une sorte de téléphone arabe et où on ajoute toujours de la méchanceté à la méchanceté pour être toujours avoir le bon mot, celui qui fait plaisir à écrire. Et donc ça a pris vraiment une tournure très très horrible. Et elle était vraiment, par contre, le thème de martyr. Si elle ne s'est pas suicidée, le thème de martyr est vrai.
Ouais, non, mais j'avais en tête, voilà, j'ai retrouvé la phrase. Hein, si j'ai un enfant comme toi, je l'abats d'une balle.
Oui, c'est alors ça, c'est un vrai commentaire.
C'est d'une violence hallucinante.
C'est un vrai commentaire.
Ouais. C'était ça que j'avais en tête.
Et pour en revenir à votre question, ce qui me faisait envie, c'était de raconter ces débuts-là, de les mettre en résonance avec ce qu'ils ont laissé comme trace dans la société et dans chacun d'entre nous, en fait. Parce qu'on n'en est jamais sorti. Ça a été vraiment... Le patient zéro de ce qui existe de ce qui existe encore, et maintenant ça n'a plus la même forme, ça n'est plus aussi massif, mais ça n'en est pas moins autant aussi cruel.
Mais moi, ce que je trouve que vous montrez et qui est toujours vrai, c'est qu'on dit toujours c'est la faute des réseaux sociaux, mais là vous montrez très bien qu'en fait c'est la reprise par une radio qui crée plus.
Alors c'est la
reprise, c'est un média classique qui crée le...
c'était totalement nécessaire. Je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas suffisamment de réseaux sociaux pour que la viralité s'installe toute seule. Elle avait besoin d'une amorce, et cette amorce a été par une radio qui d'abord était une radio locale, puis après une très grande radio nationale. Et c'est à partir de là seulement que la viralité numérique s'est mise en place.
Lucie Neuve, vous êtes enseignante en collège. Comment ça se passe aujourd'hui sur ces phénomènes? Vous observez ça toujours? Alors, il y a d'autres sujets avec lesquels on aimerait rentrer en résonance, mais on en parlera encore après, pardon.
Non, c'est compliqué pour moi de démêler tout ça, parce que si on parle vraiment, si on parle de harcèlement, du phénomène du bouc émissaire, je pense que bon, c'est pas l'apanage des enfants, que le harcèlement en ligne, c'est quelque chose qui peut être... tout aussi bien mené tambour battant par des boomers nés dans les années 50 que par des petits. Après, bien évidemment, moi, ouais, voilà. Et néanmoins, évidemment, je veux pas. Voilà, je me sens toujours un peu du côté des enfants. Donc mon réflexe, voilà, c'est un peu de les défendre. Néanmoins, bien évidemment, de mon poste d'observation. De professeur, je suis absolument consciente qu'il y a des phénomènes de harcèlement scolaire qui peuvent se jouer en ligne aussi. Et y a un mouvement timide et lent pour essayer de donner plus de moyens, plus de formation pour apprendre aux plus jeunes les conséquences de leurs actes, en fait.
Dans votre livre, ça vient en écho avec la vie de Constance.
Oui.
Je ne sais pas si on peut le raconter ou pas, je vous laisse décider.
C'est pas
un suspense, donc peut-être.
C'est pas un suspense de fou, non. Constance a elle-même son propre passé lourd, traumatique, qu'elle trimballe comme Lovana trimballe son massacre en ligne. À travers son enquête, elle ne peut pas s'empêcher d'explorer son propre passé, et tout ça s'avance. C'est une tentative de réconciliation assez calme et assez lente, parce que tout ça est assez calme et assez lent. On n'est pas sur un rendement échevelé. Et c'est vraiment une tentative de réconciliation avec de toute manière ce avec quoi on est condamné à vivre.
Votre narratrice, elle est sur les lieux du crime, alors même s'il n'y a pas crime. Est-ce que vous-même, vous y êtes allé, vous avez essayé de croiser ces gens, vous dire, tiens, celui-là a peut-être peut-être pas, et c'est peut-être
elle. En vrai, ça ne s'est pas passé à Miramas, mais dans une autre, dans une ville équivalente, plus au nord. Mais oui, j'ai interrogé des témoins, pas sur place, mais en ligne, parce que sur place, ce n'est pas possible.
Les gens ne veulent pas parler?
Non, sur place, c'est difficile de savoir, 15 ans après... Il n'y a rien d'écrit sur votre tête.
Oui, mais justement, c'est ça qui doit être très angoissant, en fait,
mais
se dire.
J'ai été sur site quand même, d'autant plus que sur cette ville, la particularité d'avoir été aussi la ville où une autre jeune fille a étudié et qui elle-même a fait l'objet d'un immense harcèlement en ligne qui s'appelle Mila. Et curieusement, cette ville qui est quand même pas grand-chose, enfin, c'est 15 000 habitants, à héberger ces deux jeunes filles à 10 années d'écart. Donc,
non, mais moi, ça m'intéresse quand même, c'est cette expérience de se promener dans les rues et de croiser des gens et de se dire peut-être que cette maman merveilleuse qu'on voit avec ses deux enfants a peut-être été, a peut-être écrit des horreurs sur Internet à un moment.
En vrai, je l'ai fait, mais je n'ai pas été jusqu'à leur poser des questions. Par contre, en ligne, j'ai posé des questions parce que les traces, elles sont encore là. Les insultes, elles sont toujours là. Et par chance, quelquefois, j'ai pu retomber sur des vrais profils Facebook parce que la plupart ont disparu. Les liens ont été coupés et ça, voilà, les gens ont changé de profil. Mais j'en ai retrouvé. Et donc, l'interaction que je raconte dans le livre avec un harceleur, parmi les plus virulents, enfin, surtout, il a été une fois, mais vraiment une fois bien. Lui, je l'ai retrouvé, je me suis adressée à lui et il m'a répondu.
Il faut dire aussi que dans votre livre, il y a une histoire du harcèlement où vous revenez sur ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est très, très documenté. Il y a un point quand même sur lequel il faut qu'on insiste et qui fera aussi écho au travail de Lucille Nova, c'est que derrière, il y a beaucoup de misogynie. C'est quand même une fille qui prend.
C'est une fille qui prend et statistiquement, c'est beaucoup les filles qui prennent. C'est, 80%, c'est des filles. Les garçons aussi, mais les garçons, c'est-à-dire en général, ça se termine plus mal. Les taux de suicide à harcèlement équivalent, les taux de suicide chez les garçons sont plus élevés. Mais les filles, c'est nettement plus fréquent, oui.
Pourquoi vous avez choisi la voie romanesque pour ce livre-là par rapport au précédent, où vous aviez clairement fait une enquête sur la famille?
Je ne sais pas
si peut-être vous pouvez rappeler ce qui était la famille en quelques mots.
La famille, c'était ça racontait ma découverte d'une.
Je crois que vous avez fait découvrir à tout le monde. Hein.
C'est absolument présomptueux, mais en fait, ça racontait l'histoire de mon exploration d'une communauté religieuse parisienne qui existe dans le 11e, 12e et 20e arrondissement depuis 200 ans. Qui vit au milieu de la société tout en étant coupé intellectuellement et j'avais par hasard j'étais tombée sur cette histoire et en tirant les fils j'étais arrivée à raconter l'histoire de cette communauté et à rencontrer des gens qui en étaient partis à l'époque, pas des gens qui étaient encore mais depuis oui, et là j'avais envie de raconter encore des choses, un passé récent, mais la voix fictionnelle me permettait d'avoir un discours plus universel. De montrer aussi que ça, on était tous quelque part des lovanards, on était tous quelque part des harceleurs, que la balance penche du bon ou du mauvais côté, on avait tous notre part de potentiel de responsabilité ou de victimisation. Donc ça m'intéressait et la voie fictionnelle c'était pour moi le seul moyen d'y arriver.
Est-ce que c'est difficile justement alors de mixer la vérité journalistique et la fiction? Il y a un mélange des deux là que vous avez.
Il y a un mélange des deux. Alors,
on sent que d'un côté vous êtes très rigoureuse.
C'est une histoire de construction. Ça demande de la construction. Ça demande du travail et il faut ne pas mettre de la rigueur dans la. Oui, ça demande de l'équilibrage. Oui. Mais c'est pas non. Après, c'est amusant d'avoir deux voix.
Et ben on va écouter un peu de musique et puis on vous retrouve, mesdames. C'était Compromat, oh là, oui, si ça se dit bien comme ça. I left myself, oh là, je vais pas y arriver. I left myself go blind. Et l'on se retrouve avec Suzanne Privat qui a écrit Toxique aux éditions Les Avrils et Lucille Nova, autrice de Deux grandes dents aux éditions Zone. Alors, il y a un petit point commun dans vos deux livres, parmi d'autres qu'on va encore voir jusqu'à la fin de l'émission, c'est que vous vous intéressez toutes les deux à l'étymologie et que là, on regrette d'un seul coup de ne pas avoir fait d'études de latin. Alors, vous, c'est l'étymologie du mot méchant. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler ce que ça veut dire? Parce que je trouve ça passionnant quand on le sait. C'est une interro surprise que je fais,
c'est pas
prévu.
C'est pas très cool.
J'ai marqué la page, hein, je peux vous la retrouver, c'est pas grave. Hein, on est pas...
Non, le méchant, c'est celui qui a mal chu, en fait. Donc, c'est choir du mauvais côté.
Il n'y a pas cette côté intentionnel d'être
non.
mauvais.
Étymologiquement, le méchant, c'est celui qui a méchu, donc qui maudit et qui méfait. C'est vraiment une question de chance. Le méchant, c'est celui qui n'a pas de chance.
Alors vous, Lucie Noé, avec vous, on va avoir d'autres étymologies. On va pas faire non plus d'interro. mais c'est qu'on y... Alors, vous, c'est que je vais y arriver. L'autre point commun que vous avez, c'est que vous avez l'une et l'autre réussi un genre hybride. Vous, et donc, j'ai dit, vous mélangez la fiction, la réalité avec un personnage. Et vous, Lucie Nova, votre essai s'appelle De grandes dents. C'est un mélange très original d'un essai, d'une autobiographie peut-être. C'est à la fois quelque chose de sérieux, mais avec un ton détaché. Et c'est une lecture du conte du petit chaperon rouge. Alors pour commencer, tout simplement, je me dis qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est un Skyblog. Alors, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas l'histoire du petit chaperon rouge. Vous pouvez nous la rappeler en quelques mots.
Oui, je pense que l'histoire du petit chaperon rouge, elle est bien installée dans l'imaginaire collectif. L'histoire de cette petite fille qui est envoyée par sa mère de l'autre côté de la forêt pour apporter une galette et un petit pot de beurre. On a presque envie de mettre des tirets entre chaque mot, tant la formule est célèbre, à sa grand-mère qui est bien malade. Et l'enfant, je ne vous le raconte pas dans le détail, mais l'enfant arrive et est dévoré à la maison par un loup en bonnet de nuit qui aurait donc revêtu les habits de la grand-mère.
Alors, est-ce que vous, justement, quand même, je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes prof, les contes sont toujours transmis aujourd'hui? Quand vous en parlez avec les enfants, ils le connaissent tous?
Oui, ils connaissent,
Je sais pas, que ce soit... pas
alors, je dis les contes, ça dépend lesquels, mais précisément le petit chaperon rouge, c'est pour ça qu'il m'intéresse là, dans le cadre de ce travail, en fait, on va en parler après, mais sur le tabou, quoi, c'est que c'est un peu un cheval de Troie, c'est-à-dire qu'il est très bien installé dans l'imaginaire collectif. Si les enfants n'ont pas entendu parler à la maison, on va leur lire et leur relire dans la moindre médiathèque, à l'école, en primaire, en maternelle, et même quand on arrive en sixième, en fait, on réétudie la figure du monstre à travers les contes.
Alors, il y a deux versions du conte, une des frères Grimm, une de Charles Perrault. Au moins, il y en a au moins deux versions. Mm. Qu'est-ce que ça dit, ça, du conte? C'est que c'est des traditions orales
C'est une matière folklorique orale, c'est-à-dire que c'est des histoires qui ont été racontées partout, dans les chaumières, souvent par des femmes.
Au 17e, 18e,
depuis bien longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, les contes ont des espèces de structures qu'on retrouve, de schémas narratifs qu'on peut retrouver même dans différents pays. Donc si vous prenez par exemple le petit chaperon rouge, en fait, il existe dans quasiment tous les pays du monde, avec des variantes, parfois l'animal va changer, pour donner un exemple. Nous, en France, c'est Charles Perrault qui va fixer en fait cette tradition orale à l'écrit.
Grimm, c'est allemand.
Et les frères Grimm en Allemagne au début du 19e siècle. Et donc, bah, évidemment, en fixant ça par écrit, bon, bah, c'est quand même des écrivains qui y imposent probablement leurs pattes, qui en gardent ce qu'ils souhaitent, qui rajoutent des détails, etc. Enfin, ils font évidemment leur travail poétique.
Parce que là, c'est une tradition orale, donc on ne peut pas très bien savoir à partir de quel matériel ils ont travaillé. Moi, je suis toujours curieux de savoir comment on débute une œuvre. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce conte-là plus qu'un autre ? Est-ce que c'est, comme on a l'impression, une insatisfaction profonde par rapport à l'interprétation dominante, quoi ? On connaît Le Petit Chaperon Rouge et l'interprétation qu'on en fait. Je vous laisse parler, mais...
Oui, oui, c'est ça. En fait, j'aime beaucoup les contes. J'en lis beaucoup encore aujourd'hui. Mais Le Petit Chaperon Rouge n'était pas du tout mon conte préféré. Parce que
c'est lequel, votre conte préféré, pardon ?
C'est Barbe Bleue. mais Le Petit Chaperon Rouge ne m'intéressait pas tant que ça, précisément parce que j'étais prise, moi aussi, dans la grille de lecture au maillage très serré et très réducteur et moralisateur et un peu sexiste, ou en tout cas, disons, patriarcal pour sûr, qu'on présente communément quand on parle de cette histoire. C'est-à-dire, c'est un conte, en général, on dit, la moralité du Petit Chaperon Rouge, c'est qu'il ne faut pas parler aux inconnus, il faut bien obéir à ses parents, il faut se méfier des étrangers, sinon on va aller chercher des ennuis dans la forêt. Et les jeunes filles, cette idée, si vous voulez, elle vient alimenter...
L'idée que le danger est dehors.
Oui, et un discours qui vise à garder les filles et les jeunes filles à l'intérieur.
C'est la chèvre de Monsieur Seguin.
Exactement, exactement. Ça, il y en a des variantes en plus sous plein d'autres formes, d'autres histoires. Et en fait, donc à un moment, j'ai donc je ne sais pas très bien comment ça arrive, c'est la psychanalyse, la magie, mais à un moment, je me rends compte que cette histoire, en fait, est peut-être plus intéressante que ça, qu'en fait, je me suis fait un peu avoir à croire ce discours hégémonique et à en oublier que la littérature, et notamment les textes de ces auteurs, que ce soit Perrault ou Grimm, que j'aime profondément, ils sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus subversifs, beaucoup plus riches. Ils contiennent des failles qui, comment dire, donc pour lesquelles il revient au lecteur de construire l'interprétation. Et voilà. Et donc,
quelle est donc votre interprétation ? On y arrive. Hein, on y arrive.
J'y viens. Pardon.
Non, mais je vous en prie, tout va bien.
Et donc, en fait, je me rends compte que j'ai occulté...
On n'a pas vu le danger là où il était, vraiment.
La possibilité que cette histoire contienne, en fait, exactement à l'inverse de ce qu'on dit habituellement, que cette histoire contienne, en fait, une scène de violence sexuelle entre la petite fille et un membre de sa famille.
Alors moi, qui vous ai lu, on n'est même pas sûr que ce soit une petite fille. Entre un enfant et un membre de sa famille.
Oui, oui, c'est ça. En tout cas, disons...
Vous dites même qu'il y a une ambiguïté à ce niveau-là. On ne sait pas. Si on lit le livre, c'est pas si clair.
Oui, mais disons, pour aller vite, sans rentrer dans le détail, mais que la démarcation adulte-enfant est bien plus importante que la distinction de genre, qu'il s'agisse du genre de l'enfant ou de la grand-mère, ou même du loup, mais voilà. vous en saurez plus en lisant le livre. Mais voilà, mais donc en tout cas, ce qui m'intéresse...
En fait, le danger est dans la maison, voilà. C'est la grand-mère et c'est pas le loup qui est dehors.
Exactement. Et pour... disons, mon l'essai, du coup, va suivre ce fil conducteur en essayant de donc remener l'enquête, comme on disait tout à l'heure, et de lire, de relire le texte avec, disons, en faisant tomber un peu les œillères du tabou. Mais l'idée, c'est vraiment de ensuite d'ouvrir un peu, de déverrouiller. Une fois qu'on a réussi à se déverrouiller sur la possibilité que, en fait, cette histoire contienne un récit incestueux, l'idée, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas vu avant, pourquoi est-ce que ça semble à ce point loufoque quand vous m'entendez en parler là, est-ce que je suis capable de vous en convaincre, et ensuite, du coup, de réfléchir à d'autres
Quand on vous lit, c'est évident que vous avez raison.
C'est bien gentil, parce merci. Je pense que la première réaction, c'est quand même de se demander si j'ai fumé la moquette, ce que je comprends très bien, puisque moi-même, je me suis dit... non, mais moi-même, je ne me suis pas totalement prise au sérieux au début. Et puis, en fait, quand je me retrouve face au texte, en me disant, allons voir si ça colle, je me dis, mais bien sûr, mais en
fait, il y a
plein
d'indices, en fait.
Ça marche. Et l'idée, c'est pas que je parlais de cette grille comme ça, très serrée, très réductrice qu'on pose sur le compte. Mon idée, c'est pas du tout de dégager celle-ci pour en ramener une nouvelle et dire, voilà. L'idée, c'est vraiment, c'est une démarche poétique et littéraire, et donc, comme je disais, de dire, en fait, il y a plusieurs interprétations possibles, il y a même
il y en aura sûrement d'autres
voilà,
encore.
C'est fécond, c'est infini, et ce qui m'intéresse là-dedans,
c'est une démarche de curiosité, en fait.
Oui, voilà, c'est ça, et que l'idée qu'en littérature, l'enquête est jamais finie, quoi. Voilà.
Alors, tout à l'heure, on a parlé d'étymologie. Dans votre livre, il y a joué aussi une grande place. On ne dira rien de la révélation finale sur. Alors, ce n'est pas les cailloux, j'ai oublié le mot.
Les scrupules.
C'est les scrupules, mais on ne le dira pas. Ouais. Moi, ça m'a scotché cette histoire. Mais je voudrais qu'on vienne sur l'étymologie du mot enfant parce que c'est très troublant. Qu'est-ce que c'est un enfant étymologiquement ?
Alors, un enfant, ça vient de infance qui signifie celui qui ne parle pas. Donc voilà, l'enfant, c'est celui qui parle pas.
Quand on parle de tabou, c'est quand même surprenant que ce soit à ce mot-là.
Oui, absolument. Après, moi, ce qui va m'intéresser...
Pardon, je vous coupe la parole, mais vous dites même que c'est celui qui ne parle pas, mais c'est peut-être aussi celui qui, quand il parle, ne peut dire que la vérité.
Oui, ben voilà, j'y venais, c'est-à-dire qu'en fait, on peut jouer à... Non, il n'y a pas de problème. On peut jouer après à essayer de d'observer cette étymologie sous différents angles, sous différents prismes, et que en fait, se demander par exemple, est-ce que l'enfant c'est celui qui parle pas, ou est-ce que c'est celui qu'on n'écoute pas ? Est-ce que l'enfant c'est celui qui parle pas, ou est-ce que c'est celui qui ne raconte pas d'histoire, au sens de ne pas mentir, de ne pas raconter des balivernes. Voilà, il y a plusieurs fils comme ça qu'on peut jouer. C'est un jeu sérieux, évidemment, hein, mais attiré. Donc ça, c'est vraiment un travail politique.
Poétique
et politique. C'est pas ce que vous trouverez dans le dictionnaire, mais l'idée, c'est de tirer un peu des fils comme ça pour nous faire réfléchir à cette question.
Et on se rappelle tous que dans le conte, enfin ceux qui ont lu le conte, moi je ne suis pas sûr que tout le monde les lise, mais si vous me dites, moi je vous crois, c'est qu'à un moment, le conte lui dit « Pourquoi as-tu de grandes oreilles ?» Il dit « C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. » C'est d'autant plus paradoxal.
Oui, bah, absolument. Il y a un... Vous allez me faire partir trop loin, mais sur la question de l'écoute des enfants, bon, du coup, pardon, je fais un peu un saut, mais c'est un des enjeux du livre. C'est de réfléchir donc à ce tabou de l'inceste dans notre société, au fait, et notamment au fait que là, ces derniers temps, et bien avant mon livre, mais dans le sillage de MeToo, notamment avec, par exemple, le texte de Camille Kouchner il y a quelques années, ou de Neige Sino l'année dernière, il y a un travail de libération de la parole, et donc un travail d'écoute un peu plus fine, plus respectueuse. Néanmoins, on écoute, mais les travaux de la Civise qui avait essayé de
recueillir
cranter
la parole
un peu
des,
voilà, des chiffres, des données pour montrer à quel point le phénomène des violences sexuelles intrafamiliales était systémique, finalement ne porte pas, c'est-à-dire leur voix finalement est vite étouffée et il se passe pas grand chose dans l'espace public. Au niveau politique, on pourrait presque parler d'un retour de bâton.
Je veux juste citer, parce que moi, je connaissais pas, j'ai pas lu le rapport de la Civise, mais il a quand même, vous dites, dès sa première page, c'est une lumineuse allégeance. La Civise espère enfin que ce rapport sera connu des enfants d'une manière ou d'une autre, que les enfants n'entendront parler ou se diront que cette Civise a fait un travail sérieux, comme les enfants font un travail sérieux, parce que les enfants sont des gens sérieux qui vivent leur vie sérieusement. Je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait tous avoir en tête tout le temps et peut-être écrire chez nous. Les enfants sont des gens sérieux qui vivent leur vie sérieusement. Et c'est d'une telle évidence, c'est un peu comme votre livre. Une fois qu'on l'a lu, on se dit, mais bien évidemment, comment on n'y a jamais pensé plus tôt ? Ce que vous montrez, vous... Pardon, allez-y.
Juste, ce qui est magnifique dans cette allégeance qui est au début du rapport de la Civise, qui a été rédigé en partie, enfin sous la houlette d'Edouard Durand, juge des enfants, c'est précisément qu'il s'adresse aux enfants. C'est que, évidemment, ce rapport, il est fait pour être lu dans les plus hautes sphères politiques, pour qu'il y ait des décisions concrètes qui soient prises, mais il y a une adresse aux enfants. Et ça, c'est quelque chose, je comprends que ça vous émeuve, moi aussi, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas, en fait. On parle, les enfants ne parlent pas, mais on ne parle pas beaucoup aux enfants non plus.
On parle beaucoup pour eux et sans vraiment les écouter.
C'est un signe postural très fort, en fait, de prendre la parole et de s'adresser aux enfants se directement.
Mettre à leur
comme ça,
hauteur,
Alors justement, Suzanne Friva, puisque vous prenez la parole, et je trouve qu'il y a un écho avec ce que vous disiez tout à l'heure dans ce que raconte Lucille, c'est que vous racontez ce que vous disiez à l'instant du backlash qu'il y a peut-être eu sur les enfants, c'est qu'on est passé de la violence politiquement, c'est vrai que c'est frappant aussi ça quand on vous lit, on est passé de la violence sur les mineurs à un sujet de politique qui est la violence des mineurs. Aujourd'hui, on ne parle pratiquement plus que de ça.
Oui, c'est invisibiliser l'autre sujet, en fait.
Ouais, c'est ça.
Si vous voulez.
Enfin, je veux dire, la violence.
C'est très étrange parce qu'on s'en rend pas compte quand on est pris dans le flux de l'actu. Et il suffit de faire cette pause et se dire ah, mais oui, c'est vrai, on parle plus du tout de la violence faite aux enfants. Les enfants sont redevenus des êtres dangereux, enfin, les adolescents surtout.
Et des mineurs de plus en plus jeunes, si on en croit Gérald Darmanin et consorts. Mais en fait, disons, pour réélargir, enfin, l'idée de ce travail donc, qui suit le fil conducteur du Petit Chaperon Rouge, mais qui ensuite va essayer d'ouvrir un peu de façon gigogne sur d'autres pans de notre imaginaire collectif ou même de mon roman familial, mais j'invite les lecteurs à reproduire cette casquette chez eux et à s'interroger sur leur propre vécu. L'idée, c'est en effet de réfléchir à quelles sont les histoires qu'on nous raconte, et qu'est-ce qu'on leur fait dire, qu'est-ce qu'on laisse dans l'ombre, quels sont les silences, etc. Donc c'est pour, relier ça à votre remarque. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte, d'ouvrir les yeux, temporairement peut-être qu'on sera tous repris par le déni à un moment, mais de se rendre compte du fait qu'il y a des sujets massifs, vraiment des éléphants dans la pièce, qu'on arrive à faire à totalement occulter pour...
Comme je disais tout à l'heure de Suzanne Priva et de la forme hybride de son livre, vous, le vôtre est aussi hybride parce que, juste comme vous venez de le dire, vous mêlez votre histoire personnelle d'une façon très originale sous forme de notes de bas de page. C'était parce que vous vouliez écrire deux récits en parallèle, parce que vous ne vouliez pas prendre trop de place par rapport à l'analyse du texte. Vous vouliez qu'il puisse y avoir plusieurs niveaux de lecture. C'est l'histoire intergénérationnelle pour le coup.
Oui, c'est un geste qui est assez spontané, inconscient. Au départ, c'est que je peux rationaliser après. Il y a probablement une forme de pudeur à raconter l'histoire familiale, intime, un peu en plus petit caractère, en détournant comme ça, en piratant le mode académique des notes de bas de page. Et puis, du coup, il me semble qu'à la lecture, ça en fait pas forcément un récit parallèle, mais en tout cas une espèce de chambre d'écho d'inconscient du texte. Et c'est pour ça, et en fait, l'histoire qui se raconte dans ces notes de bas de page, c'est une histoire vraiment terriblement banale où il y a dans ma famille, ma mère en l'occurrence, qui a été victime d'un inceste. Et donc, j'essaye de raconter comment est-ce que le silence autour de cette histoire se transmet ou pas par des détours, par des vecteurs qui sont les histoires qu'on raconte, les anecdotes familiales qu'on rabâche, etc. Comment est-ce que le secret peut circuler malgré tout.
Mais là, il y a un écho paradoxal, parce que le conte, c'est aussi ce qu'on se transmet de génération en génération.
Absolument.
C'est ce que peut-être, je ne veux pas être indiscret, mais c'est peut-être les histoires que vous a racontées votre mère. C'est peut-être les histoires que vous racontez, vous, à vos enfants, si vous avez des enfants, que vous leur raconterez un jour. Donc, c'est aussi ces deux niveaux. Il y a le conte qu'on se raconte, puis il y a aussi l'histoire familiale qu'on se raconte.
On ne se raconte pas l'histoire familiale en général. Elle est faite de silence,
c'est ça,
essentiellement.
Ça, chez Constance, c'est clair.
Non, mais toujours. J'imagine assez mal une femme dire à son enfant que sa propre mère a été violée et transmettre ça comme un cadeau qu'on transmettrait. C'est vraiment tissé de silence, tout ça.
C'est peut-être à ça que servent les contes, alors aussi à raconter les histoires familiales.
Oui, je pense que les contes et bien d'autres récits, c'est des vecteurs qui transmettent à l'indicible. Après, c'est aussi la force, la puissance de la poésie au sens le plus large, quoi. C'est de réussir à dire des choses, à transmettre des choses qui seraient sinon indicibles sous la forme d'un discours lambda, quoi. En fait, il n'y a que en littérature qu'on peut travailler le silence. Et ça ne veut pas forcément dire trouver les mots pour dire des choses, ça veut dire réussir à tourner autour, quoi. Ouais. Vous parliez de Pérec, fin de la fin ordinaire tout à l'heure, moi j'aime bien Duras, enfin j'adule Duras aussi, enfin voilà, c'est des auteurs par exemple qui ont travaillé là-dessus, quoi, sur comment est-ce qu'on fait, non pas pour réussir à dire, c'est vain, mais pour travailler l'indicible à travers la langue, quoi.
Vous travaillez indicible avec aussi une forme très particulière parce que vous parlez de choses graves, vous faites appel à la pop culture, vous n'avez pas peur d'être drôle. C'est aussi une manière d'aborder l'indicible autrement.
Oui, bah pareil, c'est pas totalement volontaire, donc ça doit être un mécanisme de défense. Hein. En effet, il paraît que le livre est drôle, donc j'en suis ravie.
Ah oui, il est très drôle. Je me demandais si c'était pour qu'il soit accessible aux enfants aussi, peut-être. Qu'ils n'aient pas peur de l'ouvrir. Peut-être aux adolescents plus qu'aux enfants.
J'espère
que ça le rend plus sincère. Et puis ça permet d'alléger l'exercice de pensée.
Ouais, je pense que. Mais donc ça, c'est inconscient. Mais donc je pense que oui, il y a un truc un peu de défense. Mais je pense aussi qu'il y a une volonté. Il y a quelque chose de finalement un peu jubilatoire à y voir clair. Voilà. Et donc finalement, je suis portée le temps de l'écriture par ça, quoi, par le fait que ça y est, je vois clair. Et même si c'est horrible, et finalement, c'est assez joyeux, quoi, une espèce de joie de la vérité. C'est quelque chose d'enfantin aussi. Le jeu, il peut être sérieux, pour renvoyer à ce que vous lisiez d'Edouard Durand tout à l'heure. Et par ailleurs, c'est aussi un geste politique à ma très humble échelle, qui est le geste de la satire, en fait, de me moquer d'être irrévérencieuse et un peu insolente à l'égard de qui voudrait tenir, et pas seulement bien évidemment à propos du petit chaperon rouge, un discours patriarcal visant à reproduire ce que Dorothée Ducy a appelé le berceau des dominations, c'est-à-dire tout le système qui permet en effet de prendre un plus petit dans la famille pour objet sexuel.
Juste un mot. Je vois l'heure qui tourne, il est 18h42 et 33 secondes. J'adore dire l'heure, je suis désolé, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'adore dire l'heure.
37 secondes,
ça y est. Dites-nous juste un mot sur la deuxième partie de votre livre, qui est très drôle. Moi, j'ai fait le jeu. C'est un jeu dont on est les héros.
Vous avez trouvé la sortie.
Oui, j'ai trouvé la sortie, mais j'ai eu mal.
à la fin, en appendice de Grandes Dents, il y a un texte qui s'appelle Barbie Bleue, qui est un livre dont vous êtes le héros, tout simplement. Donc,
Barbie Bleue, vous avez dit que c'était votre préféré Barbe Bleue.
Oui, 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 bah oui. Je reviens quand même, absolument. Et c'est un exercice de montage où en fait on circule en fonction des choix qu'on fait à la fin de chaque fragment. On circule entre quatre contes bien connus que le lecteur reconnaîtra probablement, où je me suis permise de réécrire un peu quand même la voix, mais le schéma narratif, disons, est respecté.
Allez, je redonne merci mesdames, je redonne les titres de vos livres. Lucille Nova, De Grandes Dents, c'est aux éditions Zone. Suzanne Privat, Toxique, c'est aux éditions Les Avrils. Vous retrouvez les coordonnées de tous ces livres. Ah oui, pardon, j'avais une chose à annoncer, pardon, excusez-moi. On peut vous retrouver, excusez-moi Lucille Nova, le 8 novembre, vous serez à la librairie À Tout Livre à Paris dans le 12e avec Louise
Chenevière,
qui est l'autrice d'un livre sur Britney Spears, c'est ça, ouais. Pour Britney.
On continue sur l'adolescence.
Et sinon, le 20 novembre, vous serez à 19h à Lafayette Anticipation à Paris. Je ne sais pas, vous, Suzanne Privat, si vous avez des rencontres prévues, allez-y.
C'est le moment ou jamais. J'en sors.
Bon. Écoutez, encore une fois, donc, je redonne vos noms. Suzanne Privat, Toxique, édition Les Avrils, Lucille Nova, De Grandes Dents, édition Zone. Je remettrai toutes les informations sur le site internet de Radio Campus Paris. Merci à vous. C'était La Relève, préparée, présentée par Christophe. La réalisation était assurée par Nina. On se retrouve dans 15 jours pour La Relève. La semaine prochaine, on sera là pour Numérix. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les précédentes sur le site de Radio Campus Paris, celle des 7 saisons précédentes. Et puis voilà, à bientôt. Bonne soirée, au revoir, merci.